Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 février 2022 et aujourd'hui il y a pas mal de choses à dire, mais ce qu'il faudrait déjà commencer par raconter, c'est que hier la journée en Europe n'aura servi à rien. Vous savez, c'est ce genre de journée où il n'y a pas de volume, où les gens ne savent pas trop quoi faire. Alors on était enthousiaste par les bons chiffres américains. D'ailleurs, ça s'est ressenti aux États-Unis durant la séance. Les bons chiffres de Google, les bons chiffres d'AMD. Donc c'est ce qui a tiré encore le marché américain. Mais en Europe, c'était plutôt calme. On n'a pas trop osé se laisser embarquer par la séance américaine en se disant « Ouais, ils vont encore nous faire un truc là, du style on va démarrer comme des fous. » Puis après, ils vont s'effondrer en fin de séance. Et puis nous, demain matin, on va devoir pagayer parce qu'on n'était pas bien positionné. Donc c'était un petit peu la crainte, on avait l'impression que c'était en tout cas la crainte qu'il y avait en Europe hier matin. Alors ça s'est reflété sur la séance européenne, pas grand chose à dire. Par contre sur la séance américaine, eh bien oui, effectivement, c'était Google et AMD qui tiraient les marrons du feu et qui s'en sortaient pas mal. Il faut quand même faire attention parce qu'entre les bonnes nouvelles et les excellents résultats des deux sociétés qui ont été quand même publiés avant-hier soir, eh bien il faut voir comment ça s'est traité hier et on sentait quand même qu'il y avait un peu de prise de profit parce qu'il y a des gens qui ont dû jouer les résultats à la hausse et qui ont pris les profits sur le moment. Google ne terminait qu'en hausse de 7,5% et AMD qu'en hausse de 5,1%. On aurait pu espérer un peu plus d'enthousiasme, surtout quand on avait des commentaires comme les commentaires de Bank of America qui nous disaient que AMD avait un potentiel de hausse de 63% après ses résultats excellents. Eh bien, comme on l'a vu, comme elle a fini hier soir, c'était un petit peu du style « Ouais, mais on n'y croit pas non plus, franchement, beaucoup ». Alors franchement, j'ai un petit peu l'impression que le marché pour l'instant, il est en phase, il y croit pas. Hein. On a eu ce rebond depuis une semaine, mais on n'est pas non plus monstre convaincu. Et avec ce qui va nous tomber dessus ce soir, je pense que ça risque de remettre encore un peu plus de doute. On a vu la semaine dernière qu'il y avait eu, enfin le mois dernier surtout, qu'il y avait eu des énormes outflows. On a vu que la semaine dernière et que le mois dernier, il y avait eu beaucoup de gens qui avaient vendu leur position sur le tracker du S&P, le SPY, le SPY, mais aussi sur le QQQ, sur le Nasdaq. Et on a l'impression qu'à chaque rebond, finalement, les gens prennent les profits et réduisent l'exposition en tech, réduisent l'exposition en titres, mais repondèrent aussi leur portefeuille en, on va dire, un peu plus de value, moins de technologique, parce qu'on n'est pas super à l'aise. Et on entend quand même beaucoup de gens qui viennent nous dire « Ouais, mais tu sais, le crash, c'est pour bientôt, c'est pas fini, on est encore dedans, le bear market arrive, ouh !» Donc du coup, il y a quand même encore cette crainte permanente ici, et on sent que les gens dégagent, continuent à dégager sur la moindre bonne nouvelle, et ça se ressent vraiment dans les marchés, c'est un petit peu ce qui fait la crainte aujourd'hui. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'outflows depuis quelques temps et ça a l'air de continuer. De plus en plus de gens qui ont la conviction que le sell-off n'est pas terminé. La conviction assez profonde que la hausse des taux potentiels de cette année n'est pas encore digérée. Et puis, la continuité de rotation de secteur. Ce qui fait que le marché ne fonctionne pas encore comme il fonctionnait avant cette prise de conscience que la Fed n'est plus notre ami. Donc du coup, on a encore un petit peu de la peine à digérer tout ça et c'est vrai que le marché est en phase de guérison peut-être. Il est sorti des soins intensifs, mais pour l'instant il est en phase de guérison et c'est pas encore simple parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous pèsent sur les épaules et qui donnent pas forcément envie de courir derrière, et ça se ressent quand même assez massivement encore une fois sur les chiffres du trimestre. Chiffres du trimestre qui sont clairement la préoccupation du moment. On l'a vu hier donc avec Google et AMD, on va pas revenir là-dessus, mais parlons un peu de PayPal. Comme je vous l'ai dit récemment, le plus important pour les sociétés, c'est donc d'avoir un strike parfait lors de la publication des résultats. Vous devez avoir des meilleurs chiffres que les attentes, tout d'abord. Mais en plus des meilleurs chiffres dans toutes les divisions, mais en plus des meilleurs chiffres que le trimestre d'avant, que le même trimestre il y a une année en arrière, et des meilleurs chiffres que toute l'année entière 2021. Il faut un management complètement euphorique et une guidance complètement délirante pour l'avenir. Alors forcément, quand vous avez des résultats qui vous donnent exactement l'opposé, c'est-à-dire des chiffres en dessous des attentes, des chiffres en dessous des attentes dans à peu près toutes les divisions, des chiffres en dessous du trimestre passé mais aussi de l'année dernière, un management qui arrive devant les caméras ou devant les journalistes avec une tronche de dépressifs qui sont bourrés au Xanax, et puis une guidance qui ressemble au score du Parti Socialiste aux prochaines élections françaises, forcément, c'est la catastrophe et le titre se fit littéralement démonter. C'est ce qu'on a vécu sur PayPal hier. PayPal a sorti des chiffres pas terribles et c'est vrai que ça s'est ressenti sur le marché. Moins 25%. Donc on fait pas les choses à moitié en ce moment. On a vu que sur les performances haussières, les gens sont contents, mais pour faire monter une Apple de 10% parce qu'elle a fait des chiffres dithyrambiques avec le meilleur trimestre de son histoire, c'est pas facile. Par contre, pour flinguer un titre de 25%, il n'y a aucun problème. Donc bref, sur PayPal, les gens ont plein de doutes sur l'avenir, plein de doutes sur la guidance. Le management, c'est très mitigé pour l'avenir. Donc voilà, moins 25%, c'est la sanction. Et puis alors, hier, c'était PayPal, mais aujourd'hui, c'est Facebook. Alors donc, hier soir, le fabuleux réseau social est venu publier ses chiffres trimestriels et on a eu Calimero, autrement dit Mark Zuckerberg, qui est venu parler et c'était la catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Donc en gros, eh bien, développer le métaverse, ça coûte une chier de pognon, donc du coup, ça leur a quand même coûté une perte sur la division métaverse de 3,3 milliards. Grosso modo, les problématiques de nouvelles réglementations sur la division Apple Store leur posent beaucoup de problèmes parce qu'ils n'arrivent plus à faire de la publicité comme ils veulent et à cibler la publicité comme ils le veulent, donc ça va pas non plus. Sans compter au passage que TikTok leur fait une concurrence de dingue, c'est normal, t'avais un réseau pourri d'un côté, t'as un réseau encore plus pourri qui arrive de l'autre côté et qui leur fait concurrence, donc ça leur pèse aussi sur le moral. Et puis alors, à côté de ça, si vous rajoutez encore la thématique des lanceurs d'alerte qui continuent à leur taper sur le groin, le gouvernement qui gratte derrière, bref, tout va mal chez Facebook, et on a l'impression que Mark Zuckerberg était au bord du suicide hier soir et qu'il avait vraiment besoin d'un grand coup de pied au cul pour soit quitter le département, soit quitter la société, parce que là, on a juste l'impression qu'il est temps pour lui de partir. En tout cas, il n'a pas l'air d'être le gars qui est là pour mener la société au firmament. Ces prochains temps, il a l'air vraiment au fond du bac. Bon, peut-être que ça vient du fait qu'il a perdu 15 milliards hier soir, on ne sait pas, ou que la société va perdre 200 milliards à cause de l'ouverture. Oui, parce que le titre est en baisse de plus de 20% after close, donc ça veut dire 200 milliards de market cap, paf, qui s'en vont directement chez Facebook, et 15 milliards qui sortent du porte-monnaie de monsieur Mark Zuckerberg. Enfin, ils sortent du porte-monnaie, c'est pas du concret, c'est juste sa valeur, elle va chuter, et il va perdre des places au classement des gens les plus riches aux États-Unis, et ça, franchement, c'est pas facile à vivre. Donc en gros, sur les résultats de Facebook, c'est assez simple, hein. Tout le monde les déteste, tout le monde est méchant avec eux, personne ne les aime, et puis c'est une catastrophe, et donc on est très très en souci. Le titre va donc se faire démonter, mais non content de se faire démonter, le titre va également entraîner avec lui Snapchat, qui perdait 20% dans la foulée pour fêter ça, et Twitter, qui perdait 8% dans la foulée, oui, parce que tout d'un coup, les réseaux sociaux, eh bien, c'est plus tellement in, et puis on sait plus trop quoi en faire. Donc grosse pression sur le secteur des réseaux sociaux hier et ce soir, et ça va continuer encore pendant quelques jours, probablement, parce que là on se pose plein de questions. Alors il faut quand même savoir que derrière Facebook ils ont quand même 60 milliards de cash, donc ça va, que derrière tout le monde est en train de dire du mal sur Facebook, moi le premier, mais en même temps j'aurais de la peine à me passer de mes 3545 amis que j'ai jamais rencontrés et qui sont même pas venus m'aider pour nettoyer, pour pas repeindre le salon la semaine dernière. Donc du coup on a quand même un peu cette sensation que là on est en train de taper dessus, que ça pourrait passer quelque part, même si c'est complètement con, le métaverse va se développer et va devenir un truc incontournable et tout le monde aura envie d'acheter des super yachts virtuels, des super parcelles virtuelles avec vue sur la mer virtuelle, avec des baskets virtuelles et puis des pulls Dolce Gabbana virtuels. Donc du coup, ça va quand même fonctionner à table. Donc la question sera à quel moment faudra se repositionner dans Meta, plateforme Facebook, machin. Ils auraient peut-être pas dû changer de nom, notez bien. Et donc du coup, eh bien, on est en pleine période d'interrogation. Mais là, dans un premier temps, quand vous regardez le nombre d'analystes sur Facebook qui sont à l'achat, c'est-à-dire que sur 50 analystes, il y a 41 analystes qui sont sur buy sur Facebook. Alors soit les mecs ils vont devoir changer leurs recommandations et ça va faire bizarre parce que non seulement ça va baisser, mais ça va baisser encore parce que tout le monde va passer sur sell ou sur hold ou bref réviser leur price target, etc., etc. Parce que là du coup il va y avoir une petite pression vendeuse, il va falloir se reposer des questions. Mais néanmoins il faudra pas trop vite enterrer Meta plateforme Facebook, je sais pas quoi, parce que il y a encore de l'espoir de ce côté là alors la grande question qu'il faut quand même se poser, comme je le disais tout à l'heure, c'est est-ce que Mark Zuckerberg fait encore du sens en tant que CEO, parce qu'encore une fois, le mec, il fout les jetons chaque fois qu'il arrive à la télé. Hier soir, on notera quand même les très bons résultats de Qualcomm, mais le titre baissait after close de 3%. Bon, il a pris 6% dans la séance, donc ça va. Mais il baissait de 3% malgré des bons chiffres et une guidance plus que correcte. Il faut quand même reconnaître aujourd'hui que le secteur des semi-conducteurs, c'est le secteur qui sort des super chiffres. Mais finalement, les gens, ils ont pas vraiment envie d'en avoir parce qu'ils sont quand même très méfiants sur l'avenir des semi-conducteurs. Alors, allez comprendre, on a l'impression qu'aujourd'hui, la meilleure nouvelle que pourrait annoncer une boîte de semi-conducteurs, c'est qu'ils veulent se reconvertir dans le pétrole ou dans l'énergie fossile parce que du coup ça deviendrait un value stock et ce serait beaucoup plus intéressant. Donc pour l'instant on ressent encore vraiment sur les bons chiffres cette thématique de rotation de secteur, entre autres sur Qualcomm hier. Et puis alors pour terminer le bain de sang journalier, eh bien on parlera également de Spotify. Alors Spotify c'est une autre histoire. Spotify se fait taper sur le groin depuis quelques jours parce qu'en fait ils ont le plus gros podcast, le podcast de Seth Rogen aux États-Unis qui est sous pression parce que le monsieur aurait dit beaucoup beaucoup de mal des vaccins, aurait encouragé les gens à ne pas se vacciner, à faire de la désinformation sur le Covid. Très très mal de faire de la désinformation sur le Covid. Et puis, tout d'un coup, eh bien, le titre s'est fait, était sous pression déjà à cause de cette histoire-là. Hier soir, ils ont publié les chiffres. Baisse des abonnés, baisse des souscriptions. Alors forcément, le CEO a parlé pour dire que ça n'avait rien à voir avec l'histoire de Seth Rogen. On a vu que les actionnaires ont bien compris, étaient vraiment d'accord et l'ont cru dans ses discours, puisque le titre perdait encore 10% after close hier soir, donc ça continue un peu dans la même thématique. Pour l'instant, la tech, les réseaux sociaux et tout genre de trucs qui étaient génial il y a encore 6 mois en arrière, c'est plus très populaire et on voit vraiment que les gens sont en train de chercher un truc beaucoup plus stable. Si ça continue comme ça, on va commencer à dire que les dividendes, c'est vachement cool. Un truc absolument fantastique à nouveau hier soir, c'était les chiffres de l'emploi version ADP. Alors, c'est pas le chiffre le plus important qu'on regarde aux États-Unis. Mais il faut quand même en parler parce que là, moi qui adore les prévisions économiques, là franchement, je me suis fait plaisir. Donc, ils attendaient 200 000 créations d'emplois et c'est sorti à... Pardon, c'est sorti à moins 300 000 sur les chiffres. Donc en gros, on attendait 200 000 créations et il y a eu 300 000 suppressions, donc 500 000 d'écart. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente, 500 000 personnes pour les rater dans la rue, c'est quand même pas simple. Pour les rater, si vous les mettez devant un avion pour remplir un avion, puis il faut mettre un autre avion pour remplir encore l'autre avion, vous verrez que ça va prendre un petit peu de temps. 500 000 personnes à côté de la plaque. Bien joué. Donc du coup, ça nous réveille un petit peu le concept du « oui, mais demain, il y a les NFP ». Alors sur les non-farm payroll de demain, on attend 155 000 créations d'emplois. Alors on va voir si on s'est gouré de cette même amplitude. Mais c'est là qu'on va rigoler parce qu'on va parler de la psychologie de l'investisseur. Et la psychologie de l'investisseur, ça va être rigolo parce que demain, qu'est-ce qu'on veut voir ? Demain, si les chiffres de l'emploi les chiffres de l'emploi NFP sont meilleurs qu'attendus, ce sera de combien meilleurs ? Parce qu'on attend 155 000. Admettons que ça sorte à 250 000, on va dire oh, « Mon Dieu, il y a trop de croissance, les gens engagent trop, c'est une catastrophe, ça va faire monter l'inflation et la Fed va devoir monter les taux à coût de 0,5% pour arriver à 8% à la fin de l'année. » Et donc, panique, c'est mauvais parce qu'on va monter les taux. Ça, on veut pas voir. Version 2, on arrive à 155 000, pile dans les attentes, ce qui voudrait dire que les économistes étaient justes, ce qui est à peu près peu probable, voire impossible. Et donc, du coup, on va se dire « Ok, alors ça va, on est bien, ça va gentiment, mais pas trop, ça fait partie des choses qu'on a déjà pricées. » Et puis alors, vous avez l'autre cas de figure où on sort à moins 450 000, 500 000 à côté de la plaque, 600 000 à côté de la plaque, 700 000 à côté de la plaque dans le mauvais sens. Et là, on va se dire « Ah ouais, mais alors du coup, il n'y a pas de croissance, donc l'économie, elle va pas bien. Et puis si en plus, on a une économie qui va pas bien et qu'en plus, on va nous monter les taux au mois de mars, on va se faire défoncer. Et donc, ça sera pas forcément une bonne nouvelle. Donc, on est en pleine psychologie de marché. Là, je pense qu'il serait temps que j'achète un canapé, que je change la déco de mon studio et qu'on mette un gros canapé. Et sur le gros canapé, on pourrait coucher les marchés financiers, les investisseurs et les traders pour voir un petit peu ce qu'ils auraient à nous raconter. Mais on sent vraiment qu'il y a un monstre doute et on sait vraiment plus quoi penser. Le marché n'est pas guéri de ce qu'on a vécu au mois de janvier, ça c'est une certitude. On a toujours nos points de support à 4219 et 13725 sur le Nasdaq pour l'instant, ça va. Il y a des bonnes nouvelles au niveau des big names, mais pas que. Et ce soir, il y aura Amazon. Reste plus qu'à espérer que ce soit pas du Facebook, parce que sinon ça va remettre une deuxième couche de pression. Néanmoins, aujourd'hui, les futurs sont déjà sous pression. Ce matin, on est moins 1% sur le futur S&P, et c'est pas peu dire. Merci Facebook, évidemment. Enfin, Meta Platform, j'y arriverai peut-être un jour. Donc du coup, il va y avoir une pression vendeuse aujourd'hui. Les Européens devraient ouvrir aussi dans le rouge, parce que c'est pas super motivant ce qu'on a vu ce matin. Donc on se retrouve dans une période de doute. À voir comment on va gérer ce jeudi. Et puis demain, effectivement, ce sera les non-farm payrolls, et on y verra peut-être plus clair. Mais comme on a une vision à 45 minutes, c'est toujours difficile d'aller trop vite en besogne. Donc voilà, la journée promet d'être compliqué. Je vais donc vous laisser en profiter largement. Moi, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne Suisse Côte Suisse qui frise les 14 000 abonnés. Yes! Et puis à liker cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude avec un immense plaisir demain matin à la même heure et au même endroit. Bye bye!